Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Mobilisation sociale, la bataille des défiances. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Michel Viviorca, président du directoire de la Fondation des sciences de l'homme. Daniel Tartakovsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8. Et Gaspard Glantz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondateur de Taranis News.
Vous allez y arriver avant la fin du journal.
Taranis News.
Taranis.
Et alors ? Présentez-nous Taranis News.
Alors, c'est un média qui a ouvert en 2012 à Rennes, qui est une agence de presse, donc qui vend des contenus aux différents médias, donc français, européens, étrangers, et qui réalise donc des contenus pour son propre média.
Vous êtes venu avec un petit objet, c'est un petit objet noir, il comprend une balle en caoutchouc un peu oblongue et un support en plastique très dur. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une munition de lanceur de balles de défense, donc il y a le flashball moderne. Et si je vous la ramenais, c'est qu'elle est toute fraîche, elle date d'hier, c'est un de mes collègues journalistes qui se l'est prise. Voilà, donc c'est avec cet engin qu'un jeune a perdu un œil dans la ville de Rennes la semaine dernière.
Où est-ce qu'elle a été ramassée, cette balle ?
Alors, elle a été ramassée
balle,
entre...
Ne dites pas sur la jambe du journaliste, mais en dehors de ça.
Entre Duroc et Montparnasse, hier, dans la manifestation du 17 mai à Paris.
Et là, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Puisque si je vous ai demandé de venir, c'est parce que vous suivez ces manifestations de près. Qu'est-ce que vous observez ? Y a-t-il, en quelque sorte, des scènes que vous voyez de manière régulière, Gaspard Glantz ?
Ça monte en température depuis début mars, mais là, on va dire que cette semaine, ça devient vraiment très compliqué. On savait que la journée d'hier allait donner un peu la couleur de la semaine. Du coup, on est un peu inquiet, parce qu'il y a une modification de la stratégie policière. On voit très bien de la part de la préfecture de police de Paris. Il y a aussi le service d'ordre, notamment de CGT et de Force Ouvrière, qui a commencé à rentrer en jeu à la manifestation du 12 mai. Hier, c'était vraiment très impressionnant. Nous-mêmes, on a cru que c'était la BAC, la brigade anticriminalité, quand elle a chargé à la fin du cortège au niveau d'Enfer Rochereau. Il y a de nombreux journalistes qui ont été matraqués. Il y a eu des problèmes.
Pourquoi matraquer des journalistes ?
Bah, en fait, nous, on avait le sentiment qu'ils se vengeaient pour la semaine dernière. Ils avaient été attaqués par la manifestation. Donc, il y a une grosse tension entre les manifestants non syndiqués, non organisés et les services d'ordre. Clairement, le service d'ordre est monté en première ligne là depuis la manif du 12 mai à la place de la police. Ça veut dire que tout le travail qui était opéré par les agents civils, les CRS ou la brigade anticriminalité a été opéré, c'est un peu surprenant, mais par le service d'ordre à la manifestation du 17 mai. Et ça, c'est quelque chose que, bon, moi je suis pas parisien, mais j'avais jamais vu. On m'a dit que c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les mouvements sociaux, mais j'ai été très impressionné de découvrir ça.
C'est différent ce qui se passe à Rennes et ce qui se passe à Paris.
C'est très différent. Paris, c'est beaucoup plus grand, donc enfin il y a beaucoup plus de monde en manifestation, mais on va dire que Rennes a un côté beaucoup plus politique, beaucoup plus idéologique. Il y a beaucoup plus de travail sur pourquoi la manifestation. Ils ont occupé un lieu qui s'appelle la Maison du Peuple. Il y a une radio pirate. On sent qu'il y a... C'est surtout la différence entre Rennes et Nantes. On sent que Nantes, c'est beaucoup de casse et qu'une fois qu'ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. À Rennes, il y a quand même tout un état d'esprit politique. Il y a une espèce d'union entre différentes tendances politiques qui, pendant des années, s'entendaient pas, notamment les autonomes et les communistes, qui sont aujourd'hui ensemble à Rennes pour lutter. Et c'est quelque chose qui est assez inédit. Donc c'est très différent.
On a beaucoup accusé les médias de mettre en avant les casseurs, de ne voir la violence que d'un côté, de ne pas souligner les violences policières. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que tous les membres de mon équipe ont été blessés depuis le début du mois. On est 7 par la police, la plupart plusieurs fois. Donc on a tous à peu près reçu un flashball et un éclat de grenade depuis le début du mouvement. Les matraques, ça va parce qu'on n'est pas trop près de la ligne de front. Mais on n'a jamais été blessés par les manifestants depuis le début du mouvement. Voilà.
Est-ce que vous voyez des casseurs ?
Alors, j'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme dans lequel personne se reconnaît. Ça veut dire quand vous allez voir quelqu'un, bonjour, est-ce que tu te sens black bloc ? Est-ce que tu te sens casseur ? Alors, en général, les gens s'en revendiquent pas. Donc, ça me paraît un terme un peu étrange. Voilà, c'est le terme de casseur. Par exemple, quand on va à Rennes, les casseurs, c'est toute la manifestation en fait. Donc, dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment de sens, quoi.
Toute la manifestation.
Mais non, c'est pas vrai, ça. Voyons. Vous savez très bien pourquoi la CGT, le serviteur de la CGT et des syndicats vous chassent. C'est parce que vous détournez les manifestations. Vous les casseurs, effectivement. Non, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un propagandiste, vous êtes un militant. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui est impartial. Vous ne l'êtes pas. J'ai vu votre site.
Pas de violence,
site.
Non,
c'est pas la violence, c'est plutôt elle vient de votre côté, puisque vous faites l'éloge en fait de la guérilla urbaine. Mm-hmm. Donc vous ne devez pas vous étonner que les serviteurs de la CGT et des autres syndicats essayent de défendre les manifestants contre des policiers dont vous cherchez évidemment l'affrontement, avec lesquels vous cherchez l'affrontement. La masse des manifestants n'a aucune envie d'aller attaquer les boutiques et les magasins comme le font une minorité de gens. Mais pourquoi défendre défendez-vous cette minorité précisément et pourquoi vous étonnez-vous ensuite que les services d'ordre des syndicats vous remettent à votre place?
Alors en fait, moi je défends personne, je suis pas un ambassadeur de la manifestation, je suis un journaliste, je fais mon travail.
Non, non,
j'imagine que vous êtes levé de mauvaise humeur et que vous avez décidé que j'allais
subir pour tous les... de vous mettre
la bataille, tous les la bataille pour le centre de ville de la...
Pas les deux en même temps.
Je vais vous lancer mon flashball.
Pas les deux en même temps. Je vais essayer de vous mettre tous les deux d'accord. On peut être journaliste et avoir une vision, voire une idéologie. Ça n'est pas un gros
alors
mot.
On est un propagandiste. Si on est journaliste militant, on est un propagandiste. On n'est pas un journaliste.
Est-ce que vous accusez BFM Télé d'être l'organe de propagande du ministère de l'Intérieur? Non. Pourtant, j'ai l'impression que leur analyse, leur voix off dans les documentaires sont bien plus militants que nos documentaires où il n'y a pas d'analyse, pas de voix off. C'est une illustration chronologique.
J'invite les auditeurs à aller voir votre site et ils pourront juger sur
pièce. Je les invite aussi à aller voir notre site et à juger par eux-mêmes à quel point vous êtes de mauvais humeur.
Le dernier article que vous mettez en ligne, c'est la bataille pour le centre de la ville de Rennes et on y voit des combats de rue.
C'est une série de 7 reportages que je vous invite à regarder dans leur intégralité avant de faire un jugement aussi sabré, on va dire.
Daniel Tartakovsky, l'idée qu'il y a dans les manifestations un certain nombre de formes de violence qui s'expriment, que celles-ci soient anticipées ou pas, c'est quand même quelque chose que l'on a vu. Auparavant, il y avait des autonomes, ensuite on a parlé des Black Blocs. Dans l'histoire des mouvements sociaux, qu'est-ce que ça représente selon vous?
D'abord, c'est un phénomène qui est relativement récent. Enfin, ce qui a caractérisé la longue histoire des mouvements sociaux, c'est qu'il y avait une dénonciation de la violence policière et quand elle s'exerçait, mais je rappelle qu'il y a quand même eu des phases de notre histoire où il y a eu des morts dans les manifestations, mais que la violence était une violence défensive. Moi, ce qui me frappe dans un certain nombre de mouvements, et notamment ceux que vous évoquez il y a un instant, c'est qu'il s'agit de stratégies qui sont des stratégies politiques qui visent à déstructurer, qui visent à jouer sur les marches par des déstructurations. Effectivement, moi, je m'étonne un petit peu de réserver le terme de politique idéologique à ces courants qui ont une ligne politique qui la défendent. Je ne suis pas là pour apporter un jugement de valeur, mais il me semble que ce qui s'est historiquement construit comme politique idéologique, c'était précisément des formes d'action qui permettaient d'éviter la violence, ce qui n'excluait pas que les manifestants la subissent à certains moments lourds de notre histoire.
On peut dire que l'idéologie est la chose du monde la mieux partagée, même si celle-ci est différente. En tout cas, on voit, Michel Viviorca, qu'on a une métamorphose de ces mouvements, dont certains sont majoritaires, d'autres beaucoup plus minoritaires. Vous-même, par exemple, vous avez eu l'occasion de signer un texte sur Nuit Debout. Et là aussi, dans le traitement médiatique, il y a beaucoup de réactions des auditeurs qui nous disent que Nuit Debout est un phénomène dont on a trop parlé, qui finalement est minoritaire, mais que les journalistes ont contribué à gonfler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, j'aime bien qu'on parle de contenu. Et donc, quand on réduit une situation sociale à des dimensions qui existent, la violence, les affrontements avec la police, les black blocs, les casseurs, qui est coupable, etc., de tout ça, oui, bien sûr, ça existe, mais je dirais, c'est très inquiétant. Ou bien, ça veut dire que le contenu ne pèse plus, n'existe plus, et que ce qui compte, ça n'est plus que ça. Ce qui m'étonne, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans la rue hier, et pas seulement pour s'affronter d'une manière ou d'une autre. Donc, ou bien le contenu n'existe plus, ou bien il faudrait en parler. Alors, oui, il faut parler du contenu de Nuit Debout, comme il faut parler du contenu des manifestations d'hier. Et là, s'il s'agit de Nuit Debout, moi je ne dis pas qu'on en parle trop ou pas assez. Je demande simplement que quand on en parle, ce qui est l'occasion aujourd'hui, on regarde ce que c'est. Et pour ça, il faut des enquêtes, il faut du terrain, il faut du journalisme, il faut de l'observation. Et là, on voit quelque chose de compliqué, évidemment, de fragile, bien sûr, quelque chose qui risque d'être sous tension entre des logiques où on monte aux politiques, en quelque sorte, et des gens qui disent non, au contraire, surtout pas de relation avec la politique. Et parmi ceux qui sont présents, on voit aussi une certaine sensibilité à des discours gauchistes.
Mais est-ce que pour vous, c'est annonciateur de quelque chose de Nuit Debout, ou bien est-ce que c'est un mouvement qui est réellement marginal au sens statistique du terme ?
Écoutez, si on compte le nombre de personnes qui sont passées par là, c'est certainement relativement marginal. Mais ça vient dire des choses importantes, et ça appartient à une famille de luttes qui existe depuis longtemps, et depuis plusieurs années, et qui ont connu des hauts et des bas. On a beaucoup comparé Nuit Debout avec le M15, c'est-à-dire le mouvement des indignés en Espagne, à Occupy Wall Street. Vous évoquiez dans le journal tout à l'heure Sanders et sa campagne. On ne comprend rien à la campagne de Sanders si on ne connaît pas ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street quelques années auparavant. Ce sont des mouvements qui disent des choses importantes, mais qui évidemment mêlent toutes sortes de significations.
Caspar Glanz, vous qui suivez donc la situation sur le terrain pour Taranis News, est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à des formes de mobilisation qui finalement concernent un petit nombre d'individus assez homogènes ?
Alors moi je vais être un peu cruel avec Nuit Debout, alors j'espère qu'ils ne sont pas encore réveillés, mais j'étais à l'université Rennes 2 pendant les mouvements sociaux qui ont suivi le CPE, donc ça a été un petit peu compliqué pendant plusieurs années, et Nuit Debout ça me donne le sentiment que c'est les gens qui soit n'étaient pas à l'université, soit n'avaient pas vécu de mouvements sociaux à l'université qui leur ont permis de découvrir les assemblées générales. Et c'est un peu la population dans son ensemble qui découvre le principe d'assemblée générale, le principe de temps de parole, de vote, de tribune paritaire, etc. Et c'est vachement intéressant parce que c'est quelque chose qui... Enfin, moi, j'ai grandi à l'université Rennes 2, enfin, j'ai étudié là-bas, donc c'est quelque chose qu'on en a presque trop eu des assemblées générales. Mais que la population se prenne cette espèce de côté un peu démocratique de la rencontre, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que Nuit Debout sort quelque chose de concret politiquement, c'est là où je me pose encore des questions et où j'attends de voir. Quoi.
Brice Couturier.
Moi, je regrette l'absence autour de cette table d'un représentant d'un syndicat policier. Je rappelle que 343 policiers... Non, je ne suis pas représentant. Moi, je suis journaliste, monsieur. Je ne suis pas un propagandiste comme certains autres. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas de représentant de la police et de la gendarmerie aujourd'hui. Je rappelle que 343...
France Culture regrettant l'absence de policiers
Il y a des mouvements sociaux. Il y a des mouvements sociaux aujourd'hui. Il y a un mouvement social qui est celui des forces de l'ordre qui aujourd'hui ont 343 blessés au cours des derniers affrontements qui ont eu lieu. Je rappelle que la population est très majoritairement derrière ces policiers, ces forces de l'ordre. Je rappelle aussi qu'en janvier dernier, on essaie de nous faire croire qu'il y a eu un basculement de la population qui était très favorable et qui applaudissait la police en janvier 2015 quand elle nous a protégés contre les terroristes. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que cette police est devenue impopulaire parce que quelques centaines de casseurs essaient de détourner des manifestations pacifiques pour affronter les forces de l'ordre et pour provoquer des affrontements entre ces manifestants pacifiques et les forces de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Les Français sont toujours majoritairement derrière leurs forces de l'ordre et elles l'étaient en janvier. Ils le sont également aujourd'hui.
Moi, si je peux me permettre, je pense que ça traduit quelque chose qui est un peu inquiétant aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas du même monde, en fait. Et qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est là dehors, qui se fait éborgner, qui se fait mutiler, etc. C'est quand même une génération... On parlait tout à l'heure et je suis vraiment très intéressé par le discours de madame la professeure. Vous parliez d'une génération qui est, enfin, d'une époque où il y avait des morts en manifestation. Je rappelle quand même qu'il y a moins d'un an, enfin, un an et demi, il y a Rémi Fraisse qui est mort sur la ZAD de Sivens. C'est quelque chose qui reste dans l'état d'esprit de la génération. On en voit encore son nom sur les pancartes, sur les tags, tout depuis le début du mouvement social. Donc, il y a quand même une situation où, moi j'ai vu des gamines de 15 ans avec des plaies de 10 cm sur le crâne en plein Paris. J'en ai vu tellement depuis le début du mouvement que j'arrive même plus à les compter. Donc je veux bien à un moment qu'aujourd'hui on parle de la haine anti-flic, etc. Ce que j'ai dans la main là, c'est quelque chose qui a touché un de mes collègues journalistes. Le flashball, la douille de LBD, mon collègue, il a été touché avec ça hier. Il a un casque télé sur la tête. Il était à 3 mètres de la ligne de policiers. S'il l'avait pris dans la tête, il aurait plus d'œil.
Et les boules de pétanque avec des lames de rasoir dessus. Alors, vous en avez parlé aussi, lancé par les manifestants sur les forces de l'ordre.
Ce dont vous parlez, c'était un crochet pour attraper la barrière de policiers. Ce n'est pas un projectile lancé sur les policiers. C'est un treuil.
Si vous permettez, vous invitez deux universitaires et deux journalistes et le débat se concentre depuis un bon moment sur la question violence policière, etc. Moi, je trouve que c'est à la limite pas la peine de nous faire venir.
D'ailleurs, je suis assez d'accord. Je me demandais si j'allais pas m'en aller.
Pour voilà,
aller
exactement. Parce que
avant de vous en aller, Daniel Tartakovsky, exprimez-vous sur justement ce qui a été présenté par Caspar Glanz sur la manière dont les violences effectivement représentent ou non quelque chose de nouveau, puisque aujourd'hui, c'est le thème dont nous avons choisi de débattre par rapport aux mobilisations sociales.
Et non, là... c'est pas ce qui m'avait été présenté. Il m'avait été présenté un débat sur les mouvements sociaux dans lequel on essayait de penser comment ce mouvement social présentait ou non des spécificités par rapport à quelques mouvements intérieurs, sinon je ne serais pas venu.
Pourquoi ? Parce que pour vous, la violence n'est pas...
Parce que je ne suis pas spécialiste de la violence, parce que je pense que pour en parler, il faut avoir une connaissance de terrain, parce qu'en général, j'essaye de parler de ceux dont j'ai une certaine connaissance.
Mais lorsqu'on prévoit un plateau pour faire effectivement le tour d'une question, on prend un certain nombre de spécialistes, notamment un spécialiste du mouvement social, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que vous soyez là, pour essayer de replacer en perspective et que vous repreniez en quelque sorte l'histoire du mouvement social pour nous dire en quoi la période que nous sommes en train de vivre est représentative ou non, d'ailleurs peu importe si vous y voyez des ruptures par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Il y a eu un certain nombre de mobilisations sociales avec le CPE, Gaspard Glanz en parlait, il y en a eu d'autres auparavant. Est-ce que vous considérez avoir affaire à un mouvement inédit ou a-t-on affaire finalement à quelque chose de très classique dans cette histoire-là ?
Tout mouvement est inédit et c'est pourquoi j'adhère totalement à ce que disait Michel Vivorca avant de parler d'un mouvement. Il dit bien qu'on en a une bonne connaissance, alors nous avons tous des opinions sur la question. J'ai dit à votre collaboratrice hier que si c'était pour faire du café du commerce, c'était peut-être pas la peine que je vienne. Elle m'a assuré que c'était pas pour faire du café du commerce, donc je suis venue. Moi, ce qui me frappe...
J'ai pas eu l'impression d'avoir entendu du café du commerce, ni dans les propos de Brice Couturier, ni dans ceux de Gaspard Plante.
Vous pensez bien que je me permettrais pas... Je parlais à mon bonheur, s'agissant du café du commerce. Je veux dire, on a tous une opinion sur la question. C'est ce que j'appelle dans
le
un premier
temps... Le fait qu'un certain nombre d'opinions s'expriment me paraît être effectivement la vocation de France Culture. Je ne pense pas qu'il y ait de hiatus là-dedans.
Bien, alors pour en revenir à ce qu'est le mouvement social, à ce mouvement social, moi ce qui me frappe, c'est ce qu'il traduit de manque, ce qu'il traduit d'inquiétude, ce qu'il traduit d'absence de perspective, et comment dans ce cadre-là, des acteurs dans une très grande diversité sont à la recherche d'une réponse et d'une construction. Et c'est pas simple. Et ça contribue, bien évidemment, quand il y a plus d'espoir et quand il n'y a pas de perspective claire et quand il n'y a pas assez de politique et d'idéologie, mais je le prends pas dans le sens où vous l'évoquiez tout à l'heure, ça contribue, bien évidemment, à ce que des espaces se créent pour des forces qui m'apparaissent être des forces marginales et qui débouche dans un contexte national et international qu'on connaît sur ces formes de violence. En 95, je me souviens, c'est dans un des films de Cheminot, un jeune Cheminot de la gare Montparnasse qui dit « Il fallait bien que nous résistions, nous étions le donjon. Après nous, il n'y avait plus rien. » Le problème, c'est qu'il y avait encore quelque chose, il y avait les conventions collectives. C'est-à-dire que là, on est dans une lutte qui est une lutte du désespoir. Et donc, si on compare ce mouvement avec des mouvements sociaux antérieurs, là, ce qui est dramatique, c'est cette dimension de lutte du désespoir et qui sera une lutte du désespoir aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à ce que des forces qui se battent en ordre dispersé et dans des formes dispersées. Ça m'ennuie un peu qu'en ce moment, le seul mouvement qui s'appelle En Marche, ce soit
le mouvement d'Emmanuel Macron.
Le mouvement d'Emmanuel Macron. Et que pendant ce temps-là, d'autres s'assoient. Je sais bien que c'est une forme de lutte. C'est indéniablement une rupture par rapport à ce qu'a signifié la marche en avant dans le mouvement ouvrier.
Pourquoi vous parlez de désespoir ? C'est un terme très fort, Daniel Tartakovsky.
Ben, je parle de désespoir parce que nous vivons dans un pays où s'est construit non pas un État-providence, mais je préfère dire un État social, qui est une forme de l'État-providence, bien sûr. Un État social où le compromis social avec lequel nous avons vécu de la fin des années 30 au début des années 70 a été le résultat d'une culture de mobilisation. Et je crois que la France, de ce point de vue-là, est une spécificité. Et là, on parlait de la crise de la social-démocratie aujourd'hui. Bien sûr que la social-démocratie, elle est en crise. Elle est en crise parce qu'elle a été, pour une part contemporaine de cette construction, nouvelle culture de mobilisation et nouvelle culture de régulation, l'une par l'autre et l'une pour l'autre. Et c'est tout ça qui s'est effondré. Donc il faut tout reconstruire. Il y a des acteurs classiques qui font ce qu'ils peuvent. Et le discours contre les syndicats est un discours un peu trop facile, parce qu'aujourd'hui, ce sont encore les seules forces qui sont à peu près capables d'essayer de porter quelque chose, mais ça a nécessairement une limite, et ça nous donne, je crois, ce très grand éclatement des formes, et ça peut contribuer à expliquer ces manifestations de violence.
Michel Vivurca, peut-être aussi Michel Vivurca, sur ce lien avec les grandes manifestations de 1995.
D'abord, les manifestations de 1995, c'est contre le plan Juppé. C'est pas le président qui dit « je tiendrai bon ». Non, c'est Juppé, premièrement. Deuxièmement, ça ressemble un petit peu, parce qu'il y a d'un côté un plan Juppé général sur les retraites, la sécurité sociale, etc. Et d'un autre côté, en même temps, des affaires à la SNCF. Et donc c'est dans le même contexte que tout se mêle et ça a donné d'énormes mobilisations. Donc on y pense un peu effectivement, mais je voudrais dire qu'il y a quelque chose de très intéressant, même si c'est très fragile en France aujourd'hui. On a connu, je prends les 4 dernières années, on a connu contre le mariage pour tous. Ça c'est la droite avec des secteurs souvent conservateurs voire réactionnaires. On a connu je prends les grandes mobilisations, les bonnets rouges. Marche arrière complète du gouvernement, on s'assied sur les promesses ou les engagements de l'écologie politique et on abandonne un projet. Bon, et aujourd'hui, on a en même temps, avec des différences, j'ai envie de dire, deux luttes limitées, fragiles. L'une très défensive, celle effectivement des gens qui se mobilisent sur le travail, et l'autre très fragile, qui essaie dans ce qu'elle a de meilleur, nuit debout, qui essaie dans ce qu'elle a de meilleur de parler citoyenneté, démocratie, vision planétaire des choses, etc. Et je trouve que il est important de prendre conscience. Ces deux mouvements sont très éloignés l'un de l'autre. Il n'y aura pas de convergence, mais il y a absolument aujourd'hui quelque chose de naissant dans la société française qui ne remonte pas au niveau politique, mais qui doit être écouté, entendu et pas réduit à des affaires d'affrontement police casseurs.
Un mot de conclusion, Gaspard Glanz.
Moi, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit madame à propos du côté inédit de ce mouvement social et son côté destroy. C'est-à-dire, il y a, quand on regarde mai 68, etc., le petit livre rouge, c'est un peu exagéré d'illustrer comme ça, mais les luttes sociales des dernières années étaient en général marquées par une volonté d'apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est la destruction de quelque chose qui ne va pas, mais il n'y a aucune proposition, il n'y a aucun travail politique. Alors, c'est un petit peu fait à Rennes ou dans d'autres endroits, mais on voit que principalement, qui domine, c'est la critique et pas
vous
la proposition.
Vous me pardonnerez d'être dubitatif sur la réduction de mai 68 au petit livre rouge.
Un mot de conclusion sur l'avenir possible de ce à quoi nous assistons, Daniel Tartakovsky.
Je crois qu'il y a effectivement des chantiers, je ne crois pas à la convergence non plus, mais il faut être attentif aux chantiers qui s'ouvrent et voir ce qu'ils peuvent nourrir.